Bonjour et bienvenue dans Encore Heureux. J'avais prévu de vous parler d'Albert Einstein, de sa naissance en Allemagne au sein d'une famille juive, de son enfance, de ses études, de la théorie de la relativité bien sûr, de son prix Nobel de physique, de son exil aux États-Unis. J'avais prévu de vous parler de ses petites excentricités, du fait qu'il ne portait jamais de chaussettes dans ses chaussures, ni de chapeau, même sous un ciel menaçant, sous prétexte que ses cheveux séchaient plus vite que n'importe quel couvre-chef. J'avais prévu de vous parler de son engagement pour la cause juive, de son amour de la musique, de son violon et de son cerveau, qui après sa mort et à fin d'étude fut découpé en 240 lamelles. Puis, finalement, à mesure que j'engrangeais toutes sortes d'informations sur la vie du brillantissime physicien, j'ai décidé de brosser non pas son portrait, mais celui de sa femme. Plus précisément, celui de sa première femme, la physicienne et mathématicienne Mileva Maric. Mileva Maric est née en Serbie en 1875. Elle est l'aînée de trois enfants. Ses parents sont des propriétaires terriens serbes assez aisés de religion orthodoxe. Mileva est taciturne, effacée. Elle parle très peu. Les autres se moquent d'elle parce qu'elle boite. Mais c'est une jeune fille brillante. Son intelligence hors du commun lui ouvre les portes à 21 ans de l'Institut Polytechnique de Zurich. Seule fille de sa classe pendant 4 années, c'est là qu'elle rencontre Albert Einstein, son partenaire de laboratoire. Albert manque beaucoup de cours. Réfractaire à l'autorité, il préfère souvent étudier par lui-même. Tandis que Mileva est méthodique, organisée. Elle va canaliser l'énergie d'Albert et guider ses lectures. Complémentaires, les deux étudiants vont partager leur intérêt commun pour la science et finalement vont s'aimer d'un amour fusionnel. En août 1899, Albert écrit à Mileva: quand j'ai lu Helmholtz pour la première fois, il me semblait tout à fait inconcevable que tu ne sois pas à mes côtés. Et aujourd'hui, ça ne s'améliore pas. Je trouve le travail que nous faisons en commun très bon, curatif et aussi moins ardu. Albert écrit aussi: le climat ici ne me convient pas du tout et un certain travail me manquant, je me laisse aller à ruminer des idées noires. Bref, je vois et sens que votre bienfaisante férule ne plane plus au-dessus de moi pour m'empêcher de divaguer. À la fin de leur cours, en 1900, Mileva et Albert obtiennent des résultats similaires, sauf en physique appliquée, où Mileva obtient la note maximale de 5, mais Albert seulement 1. Cependant, Mileva reçoit une mauvaise note à son examen oral et elle n'obtient pas son diplôme. Elle est enceinte d'Albert, sans être mariée. Une situation très difficile à l'époque pour la jeune femme. Elle est contrainte de retourner en Serbie chez ses parents, où elle accouche en 1902 d'une petite fille dont personne n'aura plus jamais de nouvelles. A-t-elle été adoptée? Ou est-elle morte de la scarlatine? Personne ne sait. Aucun acte de naissance ni de décès n'a été retrouvé. La même année, Albert obtient un poste au bureau des brevets de Berne. Il épouse alors Mileva, malgré l'opposition de la famille Einstein, qui n'a jamais accepté leur relation. Ce qui leur pose problème, c'est que Mileva n'est ni juive ni allemande, qu'elle est beaucoup trop intellectuelle à leur goût, qu'elle est plus âgée aussi qu'Albert et que par-dessus le marché, elle boite. La mère d'Albert écrit à son fils que Mileva ne peut pas entrer dans une famille convenable et que lorsqu'il aura 30 ans, elle sera déjà une vieille sorcière. Peu importe. Albert épouse Mileva. En 1904, Mileva accouche de son premier fils, Hans Albert, et se consacre alors à son foyer. Mais elle ne délaisse pas pour autant les grandes questions scientifiques. Son frère, qui rend régulièrement visite au jeune couple, raconte comment la nuit venue, les Einstein se penchent sur des exercices de physique autour d'une lampe à kérosène. En 1905, c'est la consécration pour Albert. Théorie quantique, relativité restreinte, E égale MC2. On parle d'Einstein dans tous les cercles scientifiques de la planète. Le temps, comme l'espace, est devenu relatif, et c'est une révolution. Tandis qu'il s'élève vers la gloire, Mileva, elle, s'enfonce dans l'ombre. Bien sûr, rien ne prouve qu'elle ait contribué à la découverte de la relativité. Cependant, les lettres que les deux jeunes gens s'échangent font régulièrement état d'un travail mutuel. La décision de publier sous le seul nom d'Albert semble avoir été également prise en commun. Mileva voulait probablement aider Albert à se faire un nom pour qu'il puisse trouver un travail et l'épouser. Une publication co-signée avec une femme aurait pu réduire l'impact des articles, étant donné les préjugés sexistes de l'époque. Nous ne le saurons jamais. Cependant, Einstein nous donne quelques indications lorsqu'il écrit à Mileva le 27 mars 1901 « Comme je serais heureux et fier quand nous aurons tous les deux ensemble mené à une conclusion victorieuse notre travail sur le mouvement relatif. »
Vous êtes sur Radio B, vous écoutez Encore heureux.
En 1909, Einstein est titulaire d'une chaire académique à Zurich. Toutes les grandes communautés scientifiques lui sont ouvertes. Il a de nombreuses admiratrices. Son second fils naît en 1910, mais le chercheur néglige son ménage. Bourreau de travail, il est définitivement ailleurs. Il multiplie les conférences, les colloques. Mileva ne lui en tient pas rigueur. Il est maintenant considéré comme le plus grand des physiciens de langue allemande, se réjouit-elle. J'espère simplement que sa célébrité n'entamera pas son humanité. Plus loin, elle semble se résigner. Qu'est-ce que l'on peut y faire? Avec la notoriété, l'un reçoit la perle, l'autre la coquille. En 1912, après 2 ans de correspondance secrète, Einstein entame une relation amoureuse avec sa cousine Elsa. Il occupe différents postes de professeur, d'abord à Prague, à Zurich et finalement à Berlin en 1914, afin de se rapprocher d'Elsa. Son mariage avec Mileva s'effondre. « Je traite ma femme comme une employée que je ne peux congédier », se plaint-il. Dans une lettre qu'il lui adresse, alors qu'ils sont au bord de la rupture, il édicte les nouvelles règles de vie commune. « Assure-toi, écrit-il, 1. Que mes vêtements et mon linge soient tenus en bon ordre et en bon état. 2. Que je reçoive régulièrement mes 3 repas dans ma chambre. 3. Que ma chambre et mon bureau soient toujours tenus propres, en particulier que le bureau ne soit accessible qu'à moi seul. Tu renonces à toute relation personnelle avec moi, tant qu'elles ne sont pas absolument indispensables à des fins sociales. Et dans tes relations avec moi, engage-toi explicitement à adhérer au point suivant. 1. Tu ne dois ni espérer de l'intimité de ma part, ni me reprocher quoi que ce soit. 2. Tu dois cesser immédiatement de t'adresser à moi si je le demande. 3. Tu dois quitter ma chambre ou mon bureau immédiatement sans protester si je te le demande. Enfin, tu t'engages à ne pas me dénigrer en mots ou en actes devant mes enfants. En 1914, Mileva rentre à Zurich avec ses 2 fils. Et 5 ans plus tard, en 1919, elle consent à divorcer. Dans leur contrat de divorce, elle fait inclure une clause stipulant que si Albert reçoit le prix Nobel, c'est à elle que reviendra l'argent. Chassé par le national-socialisme, Einstein a immigré aux États-Unis, où son génie éclate en pleine lumière. Il a épousé Elsa, sa double cousine. Leurs 2 mères sont sœurs et leurs 2 pères sont cousins germains. La nouvelle Madame Einstein est aux petits soins pour son mari, elle lui envoie des friandises et joue les protectrices en éloignant les journalistes et les fans trop envahissants. Mileva se sent abandonnée, pire, sacrifiée. Elle élève seule leurs 2 enfants. Édouard, le plus jeune, est de santé fragile. Il est interné à l'adolescence pour schizophrénie. Mileva supporte seule la maladie de son fils pendant presque 30 ans. Elle est fatiguée, elle a des soucis financiers, les soins de son fils coûtent cher. Elle est contrainte de revendre les deux immeubles qu'elle avait achetés avec l'argent du prix Nobel. Elle survit en donnant des cours de mathématiques et de piano, et grâce à la pension qu'Albert lui envoie de façon irrégulière. Tombée en dépression, Mileva meurt en 1948. Après sa mort, Einstein n'écrivit jamais à son fils interné, qui survécut encore 17 ans.
Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, celle qui parle ou qui se tait, celle qui pleure ou qui est gaie, c'est Jeanne d'Arc ou bien Margot, fille de vague ou de ruisseau. Et c'est mon cœur ou bien le leur, et c'est la sœur ou l'inconnue, celle qui n'est jamais venue, celle qui est venue trop tard, fille de rêve ou de hasard, et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres.
On ne connaîtra sans doute jamais la contribution exacte de Mileva Maric aux travaux d'Albert Einstein. Fut-elle un réel appui scientifique, une collaboratrice, une associée, une simple assistante ? Comme presque toujours en cas de collaboration étroite, les contributions de chacun sont quasiment impossibles à départager. En 1925, Albert voulut inclure dans son testament que l'argent du prix Nobel constituait l'héritage de ses fils. Mileva s'y opposa fermement, lui rappelant que cet argent était le sien propre. Elle envisagea, à cette occasion, de révéler ses contributions au travail d'Albert. Et celui-ci lui adressa alors cette lettre. « Mais tu m'as fait vraiment rire quand tu as commencé à me menacer de tes mémoires. T'est-il jamais venu à l'esprit, ne serait-ce qu'une seconde, que personne ne prêterait la moindre attention à tes salades ? Quand une personne est quelqu'un de complètement insignifiant, il n'y a rien d'autre à dire à cette personne que de rester modeste et de se taire. C'est ce que je te conseille de faire. » Se taire, c'est ce que Mileva a fait en abandonnant ses propres aspirations, heureuse de travailler avec son époux et de contribuer à son succès, pensant qu'il ne faisait qu'un. « Nous sommes une seule et même pierre », disait-elle. Rester modeste, oui, elle l'a été tout au long de sa vie. Elle ne cherchait pas les honneurs ni l'attention publique. Cela aurait été de toute façon bien difficile à une époque où les femmes n'accédaient quasiment pas aux carrières scientifiques. Oublions donc Mileva Einstein et souvenons-nous de Mileva Maric.
Ce n'est que moi, c'est elle ou moi, et c'est l'ancêtre ou c'est l'enfant, celle qui sait d'où se défend, c'est Gabrielle ou bien Eva, fille d'amour ou de combat. Et c'est mon cœur ou bien le leur, celle qui est dans son printemps, celle que personne n'attend. Et c'est la moche ou c'est la belle, fille de brume ou de plein ciel. Et c'est ma mère ou la vôtre, une sorcière comme les autres. S'il vous plaît, faites-vous léger. Moi, je ne peux plus bouger.
Chers auditeurs, merci. Je vous dis à très bientôt sur Radio B et soyez heureux.
I see.